PH, l'émission pop culture, jeux vidéo, manga, films, séries, animations, jeux de rôle et internet, présenté par Mel et JR, un mercredi sur deux sur Radio G.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pop Flash, l'émission qui vous parle de jeux vidéo, de cinéma, de séries, de manga, de jeux de rôle et tout ça, et tout ce qui nous fait vibrer lié à la pop culture. Moi c'est JR, votre animateur, et je serai accompagné de ma co-animatrice Mel. Salut Mel, comment tu vas ?
Très bien, merci, je suis très excitée d'être là avec vous toutes et tous, et avec toi bien sûr JR.
Je suis super excitée de commencer, et enfin, tout simplement pour cette nouvelle aventure avec vous tous, hein, on va pas se mentir, et pour cette première émission, je suis accompagné du coup de Fadi, sans qui on serait pas là aujourd'hui. Fadi, si vous êtes des habitués de Radio G, vous le connaissez notamment pour G la Ref et pour plein d'autres émissions, je crois qu'il a animé. Mais je te laisse te présenter de toute façon et j'espère que tu vas bien aussi.
Ben bonjour à toutes et à tous, Angevin, Angevine et les auditeurs qui arrivent ici sur Radio G, hein, qui proviennent de la commu de Mel et JR. Super content et de faire de la radio avec les copains, ça fait super plaisir. Ça fait un moment qu'on se connaît et accueillir des amis chez soi entre gros guillemets, ça fait super plaisir. Et puis hâte de voir ce que vous avez préparé et puis la pop culture, où est-ce que vous allez nous emmener. Moi j'ai trop hâte, pour ceux qui me connaissent comme tu l'as dit JR, je suis full passionné.
Mais du coup vraiment content de t'avoir aujourd'hui. Alors pour le programme de jour, on va commencer tout de suite avec du coup une première chronique qui sera du coup Game Pop, qui sera présentée par Mel et qui nous parlera du coup des dernières actus jeux vidéo. On parlera des dernières grosses sorties mais aussi des derniers petits dramas qu'il y a eu dans le monde du jeu vidéo. On enchaînera tout de suite avec la chronique Qu'est-ce qu'on lit, qui est présentée par moi-même, dans lequel on vous parlera du coup de deux livres en particulier. Aujourd'hui ce sera un manga et une BD franco-belge qui m'ont particulièrement plu. Ce sera pas toujours le cas mais il faut en profiter quand ça arrive. On coupera ensuite l'émission avec une petite coupure musicale et cette fois-ci on vous fera découvrir un petit groupe qui a été lancé par Riot et qui est lié directement à la K-pop, mais on vous en dira plus à ce moment-là. Et quand on reviendra, du coup on pourra vous parler tout de suite de lancer des dés et de Pop Clap qui nous parlera tout simplement d'une série et d'un film. Pour finir, on fera un petit quiz où on posera des questions à Fadi et on pourra finir du coup l'émission comme ça. On peut commencer tout de suite, vas-y du coup, Kézial.
Mel.
Mel.
Melvial.
Actu et test jeux vidéo, c'est Game Pop avec Mel.
Les actus de septembre. Le mois de septembre a été très chargé pour la communauté des joueurs. Entre drama, grosses sorties de jeux et leaks de consoles, on fait le point ensemble. Les grosses sorties jeux d'abord. On commence par les jeux. Septembre a vu débarquer les plusieurs titres très très attendus. Le 9 septembre, les fans de Warhammer 40K ont enfin pu poser la main sur Space Marine 2. Personnellement, je n'y joue pas, mais je sais que JR est un grand fan et a déjà plongé dedans. Ouais. Le 19 septembre, c'est God of War Ragnarok qui est sorti sur PC. Le 20 septembre, on a vu l'arrivée de Frostpunk 2 qui ravit également JR et qui m'a plutôt hype aussi, honnêtement. Et enfin, le 26 septembre, les fans de Zelda ont pu découvrir Zelda Echoes of Wisdom. Et j'ai pas encore pu y jouer, mais j'ai très très hâte d'y jouer. Et bien sûr, il y a eu d'autres sorties en septembre. La liste complète est disponible sur la page internet de l'émission. Parlons console maintenant. Hasard ou non, le mois de septembre a aussi rapporté son lot de nouvelles consoles. On a eu la confirmation d'une nouvelle Nintendo Switch et l'annonce officielle de la PS5. Prévu pour la fin d'année 2024. Les précommandes sont déjà ouvertes depuis le 26 septembre. Cette nouvelle PS5 promet d'être plus puissante avec une mémoire améliorée et une résolution 8K et un trailer futuriste. La question est, allez-vous craquer, Fadi et JR ?
Personnellement non, alors j'ai un avis qui est très tranché on va dire sur les consoles. J'ai été un joueur console, j'ai joué à la Xbox 360 notamment, mais la PS5 c'était quelque chose de bien, mais je pense que la PS5 Pro sincèrement c'est une arnaque, ça coûte beaucoup trop cher et si vous voulez jouer en jeu en 8K, jouez sur PC.
Vous connaissez le prix à peu près de la console PS5 ?
Je crois que ce sera aux alentours de 800 balles.
Mais oui, c'est 700 dollars. Ça pique un peu.
Ah oui, donc ça va dépasser les 800 euros, je pense. Moi, de mon côté, je suis un peu de l'autre team par rapport à JR. Moi, je suis pro PlayStation, même si j'ai... j'ai je suis parti vers le PC parce que beaucoup plus simple, meilleure qualité et tout, mais j'ai grandi avec la PlayStation et du coup si j'avais pu l'acheter, je pense que j'aurais pas pris la PS5 parce que je l'ai pas à ce jour et j'aurais pris directement la PS5 Pro. Ouais, un peu comme les Apple Addict mais chez PS.
Ouais, je comprends. Voilà, je ouais.
Donc ouais, en vrai, après le prix il freine un peu hein. Mais dans un monde idéal, je pense ouais, je l'aurais pris.
Ouais.
Après on va pas se mentir, d'un point de vue purement console aujourd'hui, la PlayStation est quand même au-dessus de Xbox. Ça me fait mal de dire ça parce que je suis c'est un vrai. Peu en Xbox Master Race, mais il faut le dire, c'est un peu comme ça. C'est juste que je trouve qu'on a aujourd'hui une certaine course à faire toujours mieux, toujours plus fort, toujours plus grand. À part Nintendo, qui, on n'en parlera pas aujourd'hui, ce sera un sujet qui sera peut-être un peu plus difficile. Mais ça peut être bien pour les personnes qui justement s'y intéresseraient. Après, voilà, selon moi, 700€ ou 800€, c'est trop cher pour une console.
C'est vrai. Après, si vous échangez un iPhone 11 contre un ou un autre téléphone hein, contre le PS5 Pro.
Ah là, par contre, voilà, tu m'as conquis juste avec cet argument.
Et du côté du Nintendo, justement, ça bouge aussi. Après des mois de rumeurs, on a enfin des nouvelles plus concrètes sur la Nintendo Switch 2, qui sera une version améliorée de la Switch actuelle. Elle aura une résolution 4K, sera plus grande, tout en gardant un design similaire. Certaines fuites parlent d'une carte Nvidia Tegra, ce qui promet de temps de chargement ultra rapide et une performance de jeu boostée. Elle est attendue pour 2025 et pour le nom le plus évoqué serait Nintendo Switch Pro. Mais vu que la PS5 vient de sortir, va sortir en fin d'année et qu'elle s'appelle PS5 Pro, je suis pas sûre que Nintendo garde ce nom-là. Mais voilà, c'est les rumeurs sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch Pro. Mais connaissant Nintendo, je pense qu'ils vont pas aller sur le Switch Pro et plutôt sur le Nintendo Switch 2, basiquement. Ça reste à voir. Attention, toutefois, rien n'est encore confirmé à 100%. Passons au gossip du mois. Et là, il y a du croustillant. Côté scandale, ça a chauffé. UFC, Que Choisir, ainsi que plusieurs associations ont pointé du doigt 7 jeux vidéo qui encourageaient à la consommation abusive. Selon eux, 81% des jeux mobiles utiliseraient des monnaies virtuelles pour flouter la vraie valeur des achats. Prenez par exemple Fortnite et ses fameux V-Bucks. 1000 V-Bucks coûtent environ 9€, mais souvent les joueurs n'ont pas une idée claire de la valeur réelle de ce qu'ils achètent. Une pratique pas très transparente selon ces associations. Maintenant, place à la polémique Palworld. Ce jeu de survie sorti en 2023 a fait parler de lui parce que ces créatures appelées les Pals ressemblent beaucoup à des Pokémon plagiat ou simple inspiration. À sa sortie, beaucoup pensaient que Nintendo ne laisserait pas passer ça. Et pourtant, pas de réaction jusqu'à maintenant. En septembre 2024, Pocket Pair, le studio derrière Palworld, a annoncé que Nintendo avait finalement porté plainte. Mais pas pour le design des pales, non. Nintendo attaque sur un brevet concernant le lancer de sphères. Vous savez, cette action bien connue dans les Pokémon. Nintendo a donc trouvé une brèche juridique pour Palworld. L'avenir est donc incertain pour ce dernier. Qu'en pensez-vous, Fadi, JR? Nintendo a-t-il raison ou est-ce que c'est de la chasse aux sorcières pour vous?
Moi, je pense en vrai qu'ils ont raison parce que sinon tu vas en retrouver partout. Et en vrai, ça peut être un peu cru, mais le culot de fou de Palmworld de se dire on sort un Pokémon-like et ça passe tranquille. Après, la brèche sur le lancer, c'est bien vu. Donc moi, je pense que Nintendo a raison. J'espère qu'ils vont gagner parce que même si c'est du commerce et tout, laissons aux gens ce qui leur appartient. Et Pokémon et les lancers de Pokéball, les fameux lancers de Pokéball, ça devrait rester à Nintendo.
Je suis plus mitigé par rapport à ce que dit Fadi, même si je comprends tout à fait ce que tu dis et t'as raison. En fait, il y a eu un gros culot de dire que c'était un Pokémon Killer. Bon, il faut dire que le jeu a duré 2 mois, puis après les gens se sont lâchés parce qu'en fait, il faut dire ce qu'il en est, le jeu était vide. Mais j'avoue que même si je comprends tout à fait en fait le fait qu'ils attaquent en justice tout ça, j'ai de plus en plus de mal avec cette politique de Nintendo de faire justement, ils sont connus pour ça, de faire énormément de le procès pour tout et n'importe quoi. On va parler de différents jeux de fans de Pokémon qu'ils ne vendaient même pas mais qui étaient juste là. On parlera du très bon Pokémon Uranium qui n'existe plus malheureusement, à mon plus grand malheur parce que c'était très cool. Mais plus que ça, on va parler de Nintendo de manière plus directe là-dessus. C'est que je pense qu'aussi, ce que Palworld aurait pu faire et qu'il n'a pas fait, c'est que ça aurait pu mettre un certain coup de pied dans la fourmilière. Dans le sens où aujourd'hui, je sais que j'en ai déjà parlé avec certains de mes proches, ils ont l'impression que Nintendo s'appuie vachement sur leurs acquis. Ça s'appuie sur Zelda, ça s'appuie sur Pokémon, ça s'appuie sur autre chose. C'est bien qu'aujourd'hui, ils vont nous sortir certain nombre de jeux. Bonjour Pokémon Arceus, qui est médiocre, il faut le dire, à un moment. Et du coup, attaquer en justice Pocket Camp, oui.
Pocket Pair,
oui. Améliorer ses jeux, s'il te plaît.
Oui, c'est vrai que sur ces arguments-là, je te rejoins. J'avais zappé les jeux indés qui avaient été faits, les milliers de jeux indés qui ont été faits. Et je m'étais dit à l'époque que Nintendo devrait ouvrir un casting de créateurs indépendants, de devs indépendants pour leur dire vous avez des talents, venez chez nous, on vous donne les ressources. Alors que là on est obligé de faire nos jeux Uranium, j'ai trouvé super. Et les gens sont obligés de créer leurs jeux eux-mêmes ou des suites et tout. Donc c'est vrai que OK, je me déplace un peu vers la position de GM, j'avoue.
Moi j'ai un avis assez différent de vous, notamment parce que moi j'ai joué beaucoup d'heures à Palworld. Donc c'est vrai que au début c'était un peu vide, mais ils ont fait des mises à jour assez régulières quand même. Donc il y a quand même beaucoup de fonctionnalités qui se sont ajoutées. Faut savoir qu'en plus c'était une bêta au moment de sa sortie, donc il y avait encore beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que c'était vide. Effectivement, il y a quand même des similitudes avec Pokémon, on va pas se mentir. Mais petit à petit, ça reste plutôt un jeu de survie. Pokémon.
C'est de l'exploration.
C'est plus de l'explo, de la capture de Pokémon à la limite. Mais il y a un côté plus mignon. Okay. Palworld, c'est pas mignon du tout. il y a beaucoup de choses. Mais c'est vrai que là où je rejoins ton avis, Fadi, c'est que c'est effectivement, si Pocket Pair, donc ceux qui ont créé Palworld, ont utilisé un brevet de Nintendo pour lancer les sphères, là effectivement, c'est pas légal. Donc effectivement, Nintendo sur ce coup a raison. Mais Nintendo est très procédurier. J'ai fait une enquête dessus d'ailleurs, et en fait ils ont porté plainte sur plein de jeux qui disaient oui, vous avez utilisé notre brevet, et en fait pas du tout. Notamment il y a un brevet sur le fait de planer, et qui est un brevet pour Zelda, exactement, pour Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Et en gros ça voudrait dire que si il y a un brevet similaire déposé par une autre boîte du fait de planer avec un planeur, wow. Et ils peuvent potentiellement porter plainte parce que ça pourrait ressembler, etc. Donc il y a pas mal de brèches quand même dans ce niveau-là.
Est-ce qu'ils ont déposé un brevet pour les personnages qui marchent?
Pas encore, mais ça pourrait arriver.
J'ai entendu parler dans brevet pour mettre des animaux à quatre pattes en fait dans tes jeux qui pourraient du coup en fait appartenir à Nintendo au final.
Il faut se méfier. Moi, je suis une fan de Nintendo. J'adore les Zelda. Pas trop Pokémon, mais surtout les Zelda, moi. Mais c'est vrai que je suis un peu mitigée sur cette news. Je sais pas qui a raison ou pas. Après, on verra bien et l'avenir nous le dira. Et la dernière actu croustillante. Vous avez peut-être vu passer cette rumeur sur les Sims 5 annulés. Alors, vrai ou faux? Eh bien, lors des célébrations des 10 ans, les Sims 4, Kate Gorman, vice-présidente des Sims chez EA, a déclaré qu'il n'y avait pas de Sims 5 prévu. En fait, ça n'a jamais existé. Ce que certains appelaient les Sims 5, c'était le projet René, et ce serait une version multijoueur en fait des Sims 4. EA continue des mises à jour régulières, mais pas de Sims 5 à l'horizon, et une nouvelle ère des Sims est en marche, mais elle ne ressemble pas à ce qu'on attendait.
Moi, j'ai une seule question, c'est est-ce que les Sims en multi, ça coûtera 70 balles avec des DLC à chaque fois?
Ouais. Moi, je viens d'apprendre que les Sims 4 en multi allaient sortir, mais c'est dingue.
Ah oui, mais c'est dingue. Ce que disait Kate Gorman, c'est qu'en fait, les Sims 4 ont 10 ans. Juste les Sims 4, pas les Sims. Donc, les Sims 4 ont 10 ans. Et en fait, ils ont tellement développé de jeux, de DLC, etc., que ils ont pas envie que les joueurs doivent recommencer de zéro. Et donc du coup ils se sont dit que pour le bien de la communauté ça serait peut-être mieux, mais du coup les gens râlaient un petit peu parce que les Sims 4 commencent à s'essouffler sur PC, notamment il y a beaucoup de bugs, etc. Ils ont même créé une équipe de correction de bugs uniquement. Et là, depuis cette annonce de projet René, qui serait le multijoueur Sims 4, ils ont annoncé du coup des corrections de bugs. Et effectivement, on voit des mises à jour régulières de corrections de bugs qui étaient là depuis le début des Sims 4.
Trop drôle.
Donc,
trop bien.
Je pense que les Sims 4 vont encore s'améliorer et moi je suis très hype pour être honnête, surtout un multijoueur. Voilà.
Quelle frappe.
On va devoir passer à la prochaine chronique. Je suis désolé, je regarde le temps et j'en profite
c'est fini.
Rappeler que du coup vous êtes sur Pop, vous écoutez Pop Clash sur Radio G et voilà.
DAB+, et c'est le 101.5
sur DAB+. On va passer tout de suite du coup sur notre deuxième chronique qui est du coup la chronique Qu'est-ce qu'on lit.
Préparez vos marque-pages, c'est l'heure de Qu'est-ce qu'on lit avec JR.
Une chronique est du coup une chronique où on va vous présenter deux livres. Aujourd'hui, c'est moi qui les présente, la prochaine fois, ce sera peut-être Kézial. Pour commencer, est-ce que vous deux, vous lisez un peu ou pas du tout?
À l'ancienne, je lis de loin, j'espère avoir... Je me souhaite d'avoir plus de temps pour lire. Par contre, je vois ce qui sort en manga BD un peu, roman moins, mais j'aimerais pouvoir lire. J'achète des livres encore.
Moi, j'ai des périodes, il y a des moments où je vais lire beaucoup et puis d'un coup, je vais arrêter de lire. Je sais pas pourquoi, mais là, en ce moment, je recommence à lire aussi. Et je pense que je peux dire que je suis une lectrice plus de manga que de livres en lui-même, mais oui.
Après voilà, pour ce qui est de moi, un peu comme vous en fait, j'aurais vraiment plus de temps pour lire. Du coup pour l'instant je lis surtout des mangas et des BD. J'ai une pile de romans qu'il faut que je lise depuis beaucoup trop longtemps. Mais du coup c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Aujourd'hui je vais vous présenter du coup un manga qui sera en seinen et une BD franco-belge que j'ai depuis un certain temps et que j'avais pas eu le temps de lire. Et du coup la première critique sera tout simplement sur le manga Land. Donc le manga Land, c'est le premier manga qui est publié en France par l'autrice Kazumi Yamashita. Désolé pour la prononciation, ça va être compliqué. On est aux éditions Mangetsu. C'est en seinen du coup qui est déconseillé aux adultes, aux enfants de moins de 14 ans parce qu'il va apporter certains thèmes qui sont un peu qui peuvent être considérés comme crus voire un peu dérangeants. Donc l'histoire se déroule dans un Japon qui est féodal où des villageois vivent sous les surveillances d'un dieu. Ces dieux ont mis un certain nombre en fait de règles, notamment le fait que par exemple s'il y a des jumelles, on doit sacrifier une des jumelles en les laissant dans les montagnes, et tout cela pour que les kami, du coup les quatre kami, il y a le kami de sud, de l'ouest, de l'est et du nord, puissent continuer à protéger le village. On va suivre du coup la petite Anne qui est une petite fille qui a perdu sa sœur jumelle à la naissance du coup et qui aujourd'hui a 8 ans. Il se trouve que Anne du coup découvre le monde en même temps que nous, ce qui rend en fait cette découverte de monde beaucoup plus agréable parce qu'en fait on a la vision d'un enfant qui ne connaît pas en fait ce monde, qui ne connaît pas ses règles et qui va se poser des questions qu'on peut se poser naturellement. Du style, pourquoi est-ce que ma sœur s'est fait tuer par les Camis alors qu'ils sont censés nous protéger? Ce à quoi les adultes lui répondent, arrête de poser des questions parce que sinon les Camis vont venir et te manger.
Sympa.
Mais du coup, évidemment, étant une petite fille qui se pose énormément de questions, certaines choses vont se passer qui vont faire qu'elle va se poser d'autant plus de questions et qu'elle va commencer à se poser des questions sur ce qu'on appelle le monde de l'autre côté, parce que oui, je ne vous en ai pas parlé, mais en fait, dans ce village, on ne vit pas plus de 50 ans. On a beau être en parfaite forme, à 50 ans, tu crèves.
Ok.
On va prendre ton cadavre, on va le mettre dans une espèce de petite caisse, on va le balancer dans la montagne et on va dire que tu vas te réincarner dans l'autre monde. L'autre monde, on ne sait pas ce que c'est. Mais du coup, on va suivre du coup Anne qui va se poser de plus en plus de questions et qui va déterrer des secrets qui ne devaient pas être déterrés tout simplement. Pourquoi est-ce que je conseille ce manga? Déjà de 1, les dessins. Les dessins sont très beaux, c'est des dessins qui m'ont fait penser un peu à Tezuka, surtout dans le trait en fait des personnages. Ce sont des traits qui sont assez simples, avec des grands yeux comme on les connaît, comme un peu comme le Japon, le manga traditionnel. Désolé, je m'en mêle un peu dans mes pinceaux, mais aussi parce que le style en fait de dessin va très vite passer d'un style qui va être très simple à un style qui va être très très poétique, dans le sens où l'autrice, parce que c'est une autrice, passe beaucoup de temps en fait sur ses paysages et que parfois il y a des doubles pages qui sont vraiment à couper le souffle. Je le déconseille néanmoins à certaines personnes qui vont être un peu plus, on va dire, sensibles à tous ces sujets, c'est-à-dire la mort, la sélection naturelle entre guillemets, parce que évidemment une des premières questions c'est évidemment que en fait quand les animaux, quand un jeune enfant n'est pas adapté, on l'abandonne, malheureusement. Est-ce que c'est vraiment être considéré comme étant être de la soumission de faire pareil avec ses enfants qui pourraient porter malheur? Mais voilà, tout ça est dit que, je vous conseille ce manga que j'ai lu en... quand même en une bonne heure, parce que c'est un beau bébé, 327 pages quand même. Tout illustré, mais ça se lit très très vite, et voilà. Donc si vous voulez le trouver, vous pouvez le trouver à la Fnac, vous pouvez le retrouver au Repère des Héros, ou comme moi, vous pouvez le retrouver à Azumanga. Ah si, dernière chose, c'est une série qui est considérée comme courte, étant donné qu'elle va se terminer en 11 tomes. Les deux premiers tomes sont sortis en France, et les deux autres devraient sortir dans la foulée.
Et chaque tome fait plus de 300 pages.
Ok.
Faut dire au sueur.
pour vous donner en ordre de prix, en manga, classique, coûte 7€. Là, ça coûte 9€. Et vraiment, pour ce qui est de Mangetsu, c'est plutôt une bonne affaire, étant donné qu'en fait, ils font énormément de très belles éditions. Et que les très belles éditions, ça coûte très très cher. Ça fait souvent chier les gens parce que, le manga, c'est pas censé être quelque chose de niche, entre guillemets. Et du coup, Mangetsu le rend un peu niche. Mais bon, ça, c'est un autre détail. Je regarde encore une fois le temps et j'ai encore du temps en fait, c'est bon, c'est tranquille. On va pouvoir passer du coup à ma deuxième critique. Cette fois-ci, c'est une BD qui est franco-belge. Je vais prendre mes notes parce que je... on va parler aujourd'hui de Nathanael. Nathanael, c'est une épopée rétro-futuriste splendide. Ça a été illustré par Fred Baltran, que je ne connaissais pas. Et ça a été écrit par Charles Berberian. Donc l'histoire nous plonge dans un monde où l'humanité a été divisée en deux catégories. Les deux catégories, c'est assez simple, c'est qu'en dessous, il y a, un peu comme à la Fallout, une espèce de société qui s'est enfermée dans des grands bunkers parce que, vous comprenez, il y a une guerre nucléaire selon eux et tout le monde est mort et du coup, il faut pas ressortir. Et au-dessus, il y a bien une société de personnes qui prospèrent très bien et qui sont immortelles. Immortelles dans le sens où, en fait, quand ils meurent, soit si tu es très très riche, tu peux te réincarner en corps humain, et si tu es pauvre, tu vas te réincarner dans un robot. Est-ce que c'est enviable? On va en parler, mais le fait est que dans une de ces deux sociétés vit Nathanael, une jeune femme qui va, encore une fois, en posant des questions, en faisant des recherches, un peu bousculer l'ordre établi. On va suivre au cours de cette aventure, du coup, Nathanael et le nom d'un personnage que j'ai oublié malheureusement, qui est du coup un bon père de famille qui... c'est les trois premières pages du film, qui est mort, qui s'est réincarné dans un robot qui fait du café, qui est devenu obsédé par le café et dont la famille s'est fait tuer par les flics.
Ok.
C'est
sympa. Nice.
C'est sympathique.
C'est encore une fois très agréable à lire parce que c'est un univers qui est encore une fois très très riche en fait. Les dessins sont très très beaux. Parfois un peu loufoque, on va pas se mentir. Tous les humains qui sont dans un spandex avec... certaines choses qui sont montrées, qui ne sont peut-être pas montrées à des enfants, notamment, on va pouvoir peut-être se poser la question sur l'intelligence artificielle, étant donné que beaucoup de relations, on va dire, entre adultes est fait maintenant via certains câbles qu'on branche à certains endroits.
Ah ouais.
C'est particulier. Okay. C'est plus ou moins sous-entendu que quand en fait une personne se réincarne en robot, son comportement change un peu. On va prendre l'exemple par exemple du père qui était de base, je crois qu'il tenait un café si je me souviens bien, et qu'à partir du moment où en fait il s'est réincarné en robot qui fait du café, déjà de 1, il est traité comme une... Est-ce que j'ai le droit de le dire à la radio? Comme une pauvre merde.
Oui, tu veux.
Et il est vraiment genre à chaque fois qu'il y a un souci, il est en mode écoutez-moi, je vais tout expliquer. Asseyez-vous, je vais vous faire un magnifique mocha. Vous avez goûté à mon mocha. C'est très drôle. C'est souvent absurde et ça peut être parfois très trash. Encore une fois, c'est très très cool. C'est sorti en 2019 chez Glénat. Okay. Vous pouvez encore une fois le retrouver au Repère des Héros, à la Fnac, et c'est tout, je pense. Peut-être aussi c'est chez Richier. Encore une fois, c'est un très très beau livre. Ça parle du coup d'univers rétrofuturiste, et pour les personnes qui me connaissent, j'aime le rétrofuturisme, j'aime le cyberpunk, et du coup forcément ça m'a parlé. Ça pose des vraies questions sur notre société. Ça va parler des questions de société par rapport à l'ordre, par rapport aussi aux grosses inégalités. Est-ce que on a le droit de laisser quelqu'un parce qu'il a de l'argent se réincarner 17 fois? Il y a une scène dont je vais parler, mais je vais pas dire du coup la forme là-dedans, c'est que il y a Nathanael qui est petite, qui parle avec son père qu'on apprend à avoir été sa mère, puis son père, puis de nouveau sa mère. Dans le sens où en fait il est mort 3 fois, et du coup en fait la gamine, elle ne sait pas, et ça parle même pas de transidentité, parce qu'en fait les gens ne se posent même plus la question de qui ils sont. Dans un sens où en fait...
Ils s'adaptent
systématiquement. Là, quand on en est là, le père, mère, père, du coup, de Nathanaël et de nouveau là, et c'est en grand dirigeant, et c'est très très fortement vu que toute la classe dirigeante est corrompue. Mais encore une fois, je vois que je suis en train de déborder sur mon temps, du coup, je vais juste vous poser une petite question. Est-ce que ça vous a donné envie de lire ces deux livres?
Ouais, moi surtout le premier. Okay. Le premier, j'ai beaucoup aimé, surtout l'univers du Japon.
Du Japon, ça, ouais.
Sur le premier. Ouais, de toute façon, tu mets Japon et n'importe quoi d'autre après, je coche. Mais en vrai, sur l'explication, moi je trouve c'est trash, mais je trouve ça intéressant aussi à la vision de compréhension derrière tout ça, tout le système de pensée qui est fait. Et moi j'aime bien me dire dans ces histoires-là comment les auteurs construisent leur truc pour poser ça sur papier. Où est-ce que tu trouves la source et tout ça? Bref, oui, ça m'a donné envie. C'est ce dont je vais t'aller.
Eh bien, n'hésite pas de toute façon. C'est pas comme si on se voyait qu'à la radio. La prochaine fois que je viens, si tu veux, je t'amène le manga et je te le prête pour une durée jusqu'à ce que tu aies fini de le lire et tu me donneras ton avis.
Oui, il faut que je commence à lire. Oui, oui.
Ah oui, les deux me tentent. J'adore quand il y a des personnages féminins principaux qui se posent des questions et qui essayent de soulever peut-être la société, etc. Donc, ce qui est très drôle parce que dans tes deux lectures hier, il y a un peu cette similitude de personnages féminins qui se posent des questions, qui se disent mais la société dans laquelle je vis. Il y a un truc qui cloche, en fait. Ouais. Et ouais, moi, j'aime beaucoup ça. Donc oui, ça me tente énormément.
Eh bien, bon, parfait. C'était le but. Et bien, de toute façon, on va faire une petite pause d'environ 3 minutes. Aujourd'hui, je vais vous faire écouter, du coup, une musique de KDA, qui est un peu connue.
Ouais.
Le premier qu'ils ont sorti, c'est Popstar. C'était plus ou moins prévu. Et puis, du coup, à tout à l'heure.
À tout à l'heure. Come and run again. You wanna dose of this? Right now it's KDA. I'm a goddess with a blade. Story time on the eater. Meet you once again. Loud, 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 loud. I could take you to the top. 절대 멈추지 못해. 내가 끝내주는 bad girl, girl, girl. And when I started to talk that, oh, you know how to react. I'm a picture perfect face with the wild in my veins. You can hear it in my girl, girl, girl. So keep your eyes. We got it all.
Rebienvenue sur Pop Flash. Vous êtes toujours sur Radio G et vous écoutez du coup Pop Flash avec Mel et JR et surtout aujourd'hui comme invité Fadi. On va reprendre tout de suite avec du coup Pop Clap qui sera présenté dans un premier temps par Mel puis après par moi et du coup on commence tout de suite avec Pop Clap. Action, émotion et un peu de popcorn, bienvenue dans Pop and Clap.
Aujourd'hui dans notre chronique Pop and Clap, je vous parle du film Uglies, fraîchement débarqué sur Netflix le 13 septembre 2024, adapté de la célèbre saga littéraire de Scott Westerfield. Ce film nous plonge dans un futur dystopique où, à 16 ans, chaque adolescent doit subir une chirurgie esthétique pour correspondre aux standards de beauté imposés par la société. Ceux qui refusent ces transformations sont étiquetés comme des Uglies, des marginaux jugés moches. C'est littéralement le titre du film. Dans cet univers, nous suivons donc Tali Youngblood, une jeune fille qui s'apprête à rejoindre le monde des pretties, les gens transformés et conformes. Mais sa rencontre avec Shay, une fille qui remet en question cet idéal, bouleverse tout. Shay lui ouvre la porte vers un autre monde de vie, loin des diktats esthétiques, un monde plus libre, mais aussi plus rude. Tali devra alors faire un choix difficile, se fondre dans le moule ou embrasser la rébellion. Franchement, je m'attendais à un film un peu ringard, superficiel et dépassé, mais contre toute attente, j'ai vraiment accroché. Certes, il ne rivalise pas avec des gens du genre comme Hunger Games par exemple, mais il a des belles qualités et commençons par les points négatifs pour mieux finir en beauté. Le plus gros défaut du film, c'est sa durée. 1h30 pour un film dystopique, c'est vraiment trop court. Résultat, le développement de personnages, notamment du côté des pretties, est un peu bâclé. Et puis, parlons de la CGI, notamment dans les scènes de skateboard. Franchement, c'est pas terrible. Mmh. Et on voit que c'est du CGI.
Moche.
C'est pas beau. On sent que certains effets sont un peu ratés. Mais passons aux aspects positif, parce qu'il y en a. Visuellement, outre cet aspect CGI, le film est splendide. Les décors sont magnifiques, l'environnement est sublime. Hormis ces quelques scènes que j'ai mentionnées, donc, les acteurs sont convaincants et l'univers est vraiment riche. C'est un film qui ne révolutionnera pas le genre de la dystopie, mais il reste très agréable à regarder et peut surprendre ceux qui, comme moi, s'attendaient à quelque chose de plus gnangnan. Bref, une bonne surprise Netflix à savourer sans trop d'attente. Vous l'avez vu, Fadi, JR ? Vous connaissez ? Pas du tout ?
Non, j'ai pas vu, mais par contre, ça m'a donné envie.
Ah ouais ?
Avec la comparaison avec Hunger Games et le fait. Et même la question de la durée, ça me donne envie juste de jeter un coup d'œil et voir par curiosité.
Alors, il faut savoir que t'as essayé de me le faire regarder ?
C'est vrai.
Et que je voulais pas parce que en fait j'avais l'impression que c'était juste un truc gnangnan qui serait, on va pas se mentir, un peu nul, mais j'avoue que la critique que t'as fait me donne envie, ne serait-ce que, encore une fois, peut-être pas de le regarder en entier, mais de regarder peut-être le début et de me faire un avis et soit de continuer, soit de m'arrêter.
Bam, il a été convaincu.
Franchement, moi aussi, j'étais pas sûre de le regarder en entier parce que je me suis dit, ça a l'air d'être un film vraiment cucu la praline. Et en fait, pas du tout. Franchement, c'est bien ficelé. Et au final, les 1h30 sont passées très vite. Donc, tant mieux si j'ai réussi à vous faire plaisir.
Je le regarderai dans le train, en fait, ouais. Entre deux trucs.
Ouais, c'est ça, en fait.
Moi, je suis intrigué par les skateboards mal faits.
Ouais, moi aussi.
mais les skateboards et les personnages qui sont dessus, c'est vraiment le point noir du film qui m'a sorti limite du truc. J'étais là en mode, ah ouais. Alors, heureusement, ça dure pas longtemps, la scène du skateboard, parce que, voilà. Mais ouais, c'est...
J'ai hâte.
Voilà. Mais sinon, c'était très bien.
Bah, je vais regarder aussi. Et du coup, pour la suite, est-ce que t'as quelque chose à rajouter ou pas?
Non, pas du tout.
Ok, pour la suite, une autre série où j'ai été convaincu parce qu'à la base, je ne voulais pas. On va parler de Prince des Dragons. Est-ce que vous connaissez Prince des Dragons?
Non, j'ai peur de me tromper. Non, ça me
sur Netflix, Prince des Dragons, sur la trace d'Avaros, d'Aravos, peut-être.
Ça me dit rien.
C'est un dessin animé, c'est une série animée.
Ouais, j'ai vu le nom passer, je crois, mais j'ai pas cliqué dessus.
Ouais.
En vrai, je comprends parce que je t'avoue que moi aussi, quand j'ai vu le truc, j'étais un peu en mode
ouais,
vas-y, ce sera pas ouf.
Mais
en gros, Prince Dragon, c'était une série d'animation qui a commencé à sortir en 2018. Aujourd'hui, il y a 6 saisons. Et il y a la septième qui va sortir, septième et peut-être dernière du coup, qui sortira en décembre. Et c'est une série qui, un peu comme vous savez, toutes ces séries d'animation qui sont pour enfants, mais qui en fait parlent très bien aux adultes, est sortie un peu dans... Enfin, moi, j'en ai pas entendu parler personnellement, et quand je le voyais, en fait, surtout, on va dire, les graphismes, en fait, me répugnaient un peu. Au final, Kezia, elle me l'a proposé, enfin, Mel me l'a proposé, désolé. Et, au final, j'ai bien accroché. Même plus que bien accroché, il est rentré facilement dans mon top 5 des séries que je vais probablement m'inscrire sur la peau en jour, sous la forme de tatouage.
Waouh.
Parce que c'est bien, merde, à la fois, il faut le dire, hein. C'est une série qui est en univers qui est parfait, je veux dire, rien n'est parfait, mais c'est un univers qui est développé avec son propre écosystème, ses propres animaux, ses propres règles, et en fait, à chaque épisode, on en découvre un peu plus, et on a envie d'en découvrir un peu plus. Évidemment, je suis rôliste, je me suis demandé s'il y avait un univers de JDR, et il y en a un! Donc je suis content, mais si on parlait un peu de l'histoire. L'histoire nous met du coup, dans la peau, on va suivre, du coup, quatre personnages, parce qu'il y a le meilleur personnage là-dedans que j'avais oublié. Mais du coup, on va suivre Callum et Ezran, qui sont les princes d'un royaume qui s'appelle le royaume de Catolis, qui sont des humains. Et ils seront accompagnés, du coup, d'une elfe qui s'appelle Rayla, qui de base était venue pour les tuer. Une sombre histoire, mais vous verrez.
Ouais.
Et, surtout, ils seront accompagnés de Batrapa, un crapaud luminescent, qui est le meilleur personnage. Je ne veux pas de débat là-dessus. il est mignon, il est un peu idiot, et surtout, il est un peu fluffy. Ça, j'aime beaucoup. Et ça, j'aime beaucoup. On va quand même parler un peu des points faibles. Au niveau des points faibles, j'ai dû un peu chercher pour en trouver, parce que forcément, je suis fan et que ça joue pas. Je dirais qu'il y a certains épisodes qui traînent peut-être un peu en longueur, mais encore une fois, c'est vraiment léger. Et puis, surtout, étant donné que c'est quand même une série qui est dite pour enfants, entre guillemets, il y a forcément un humour qui est peut-être pas toujours en fait adapté pour moi. Et je trouve surtout sur certains personnages qui, en fait, parfois, ça en fait trop et en fait, ça les décrédibilise un peu. Et ça, c'est peut-être un peu dommage, mais c'est encore une fois, c'est léger, ça va pas. C'est un peu altéré, on va dire, mon visionnage, mais c'était vraiment très léger. Sinon, d'un point de vue des points forts, attendez, dès midi, je prends mes notes et je commence.
Il a ouvert un parchemin. Il l'a fait tomber par terre.
Comme je disais déjà de en bas, le world building, c'est quelque chose qui est très bien fait. Je suis moi-même quelqu'un qui écrit pas mal, notamment pour du JDR, et il y a des trucs que j'ai trouvé trop bien, notamment le système de magie par rapport aux runes que je trouve juste très très bien, lié directement aux quatre éléments et en cinquième élément qui est celui des humains et qui est évidemment la magie noire voilà. Pour ce qui est de la magie noire, autant les éléments, en fait, on puisse directement, en fait, dans les éléments, et en fait, on utilise ça, et ça peut passer soit par des pierres, soit par rapport au fait qu'on comprenne, en fait, la source même de la magie. Soit, on passe par la magie noire, et la magie noire, c'est comprendre, vous savez, c'est pas trop notre fort. On va prendre tout simplement une créature magique, on va la buter, et on va utiliser ses viscères pour faire de la magie. Moi, je dis pourquoi pas. Mais ce qui est aussi très bien, ça va être l'écriture des personnages. Les personnages sont profondément humains, en fait. Ils sont pas parfaits et ils vont évoluer avec nous à travers, en fait, les épisodes. Évidemment, pour moi, le plus gros point fort, ça reste leur méchant. On va parler de Viren. Viren, qui est le premier grand méchant, qui est en humain, qui est en mage noir, évidemment, qui va faire un paquet de choix qui vont être moyens. Mais en fait, étant donné qu'on suit aussi bien les héros que les vilains dans leur évolution, on comprend ses choix et on comprend comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Viren, c'est... Je ne vais pas spoiler parce que je ne peux pas trop le dire, mais c'est un personnage qui, personnellement, quand il faisait ses choix, j'étais profondément en désaccord avec lui. Mais en fait, étant donné qu'on suivait ça, on suivait son développement, on se rendait compte que, qu'en fait, c'était dans une situation, en fait, c'est une possibilité qu'on aurait pu faire. Surtout qu'il y a toute une question, du coup, avec la magie noire qui est très, très bien exploitée. Et on va parler, du coup, du deuxième grand méchant, qui est, du coup, le méchant de la deuxième partie, qui est Aravos. Aravos, c'est un elfe. Aravos, il est beau. Aravos, il est convaincant. Voilà, il faut le dire. Et Aravos, il est Aravos, c'est encore une fois, il est bon. Lui, c'est un connard. Il faut le dire. C'est un connard. Et c'est comme ça. Mais encore une fois, c'est un connard qui où on va essayer de nous expliquer comment il en est arrivé là. Alors personnellement, j'ai un avis là-dessus. Je pense qu'en fait, ça a toujours été un connard et que c'est juste un bon prétexte pour faire ça. Mais c'est un personnage que j'aime beaucoup parce que c'est pas le personnage du méchant qui va tuer, en fait, d'ailleurs, les deux ne sont pas comme ça. Ça va pas être le méchant qui va tuer, en fait, ses sous-vifs. Vous savez, comme ce truc du, est-ce que j'ai le droit de dire le Nazi word, à la radio?
Non. Attends, il a dit, je peux dire le Nazi word, il a déjà dit Nazi.
Oui, mais...
Tu veux dire Hitler?
Quoi? Non, je veux dire, vous savez qu'on voit parfois dans les films américains où il y a le grand méchant qui arrive avec son fusil et qui descend entre ses sous-fifres parce que, vous comprenez, il est très méchant et qu'il s'en fout de ses sous-fifres. Bah, il n'y a pas ça, justement, et que, du coup, ça rend les personnages, en fait, moins manichéens et du coup, plus agréables à suivre.
Ok.
Et encore une fois, on peut les comprendre. Mais c'est, le point fort ne sont pas notamment que sur les, méchants, enfin que sur les vilains entre guillemets. Les héros aussi sont très bien développés. On va parler de Soren du coup, qui est un personnage qui était au début profondément idiot. Il reste profondément idiot, mais en fait on a cette évolution de personnage qui le rend en fait attachant et qui le rend surtout à la fin. Tu te rends compte que de base c'était quelqu'un qui voulait être un héros, qui ne l'était pas et qui arrive à le devenir. Mais encore une fois, on va pas parler de tout ça. On peut parler aussi de Callum qui est du coup qui est un personnage qui de base n'est pas un personnage physique et qui normalement dans ce genre de fantasy, vous savez, on met vachement en avant la force physique et l'héroïsme, c'est pas ça. Et encore une fois, c'est un héros qui est très bien, et on parlera même pas de Rayla qui est de Rayla, mais de tous les personnages féminins de cette série qui sont parfaitement écrits. Et ça c'est bien. Et encore une fois, on va parler, c'est la dernière chose que je parle par rapport au personnage, c'est le niveau représentation. Il y a une représentation, que ce soit de la communauté LGBT ou même de la communauté des différentes minorités. Moi, personnellement, pour les personnes qui me voient, vous voyez ma couleur de peau. Il y a des très bonnes représentations là-dedans, ce qui me permet, enfin, je vais penser au JR qui était plus jeune. J'aurais aimé avoir ce genre de série pour pouvoir, en fait, avoir vraiment des personnages sur lesquels je pourrais me représenter. Et ça, pour une fois, ils le font bien. Et contrairement, encore une fois, à certaines séries où on pourrait dire qu'en fait ils sont uniquement définis par le fait que soit ils fassent partie de la communauté LGBT, soit c'est le personnage noir entre guillemets qui va mourir en premier dans le film d'horreur. Bah là, encore une fois, ils le sont, c'est fait. Mais de un, c'est pas surexploité, on le sait qu'ils le sont, et vraiment ils ont un caractère qui est juste bien exploité. Du coup, encore une fois, vous l'aurez compris, je vous conseille de regarder cette série. Les épisodes durent entre 20 et 30 minutes. Donc franchement, ça se regarde vite. Avec Mel, on l'a regardé en 3 jours. Bon, bah c'est ça, c'est voilà, ouais, autre chose.
Ils vont rusher.
Il y a 6 saisons pour l'instant et on l'a.
Vous l'avez avalé.
On l'a binge-watché. Mais vraiment, c'était incroyable. Et effectivement, j'ai beaucoup aimé. Moi, ce que j'ai aimé, c'est la représentation qu'il y avait. Vraiment, on pourrait dire que la série, elle, je sais pas si on a le droit de le dire, mais on pourrait dire que la série, elle est woke. Franchement, elle est incroyable. Il y a de la représentation LGBT, il y a de la représentation de couleurs, de peau, etc. Donc vraiment incroyable cette série, et les méchants sont magnifique aussi.
Je suis désolé, je vais te couper juste pour savoir si du coup Fadi, t'as envie de regarder ou pas du coup, et après on va passer directement à la suite parce que
Le temps avance.
Ouais.
Oui, ça m'a donné envie. Alors, je sais pas si j'aurai le temps de binge-watcher en 3 jours, mais l'explication, ça m'a vraiment beaucoup donné envie. Et moi, c'est une force que je trouve dans ce genre de dessin animé ou de série d'animation qui sont faits pour les enfants. Énoncé pour les enfants, mais qui peuvent parler aux adultes. Moi, l'exemple que j'ai beaucoup suivi, c'est Gumball. Alors, c'est pas du tout le même univers, hein, Gumball, mais c'est fait pour les enfants et ça parle beaucoup aux adultes et ça représente à peu près tout le monde. Du coup, et je suis convaincu par la manière de l'écriture et puis l'univers. Moi, ça me tente toujours.
Et puis, on voit d'ailleurs sur Netflix avec au fur et à mesure que les saisons avancent, ça m'a fait rire. Au début, les 3 premières saisons, donc les 3 premières la première partie, donc la partie 1 qui s'appelle juste Le Prince des Dragons, ça m'a fait rire parce que c'est pour les enfants à partir de 7 ans.
Ouais.
La deuxième partie, la première partie, c'est 10 ans et plus avec légère violence, et puis après c'est 10 ans et plus mais violence explicite.
Wow.
Et donc effectivement ça évolue. Et je pense qu'en fait, c'est parce que les créateurs ont compris qu'ils avaient beaucoup plus d'adultes dans la communauté Prince des Dragons que d'enfants, en fait. Et je pense que c'est aussi parce que ça fait très JDR, en fait. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'adultes sur cette série. C'est vrai que l'humour, parfois, c'est un peu enfantin, mais bon, ça passe très vite.
Sans transition, désolé, on doit s'arrêter. On va passer directement à la avant-dernière chronique, qui est la chronique du coup Lance les dés.
La chronique JDR, Lance les dés avec JR.
Alors Lance les dés, c'est quoi? Lance les dés, il faut savoir que
Moi je t'interromps, je kiffe le moment, j'adore.
Okay.
J'adore l'émission.
Ah mais je m'entends là.
Je suis trop bien, je suis trop chez moi.
Ah bah tant mieux, c'est le but. Et tu reviens quand tu veux, évidemment.
Bien sûr, je suis pas loin.
C'est vrai. Mais du coup, Lance les dés, bah, c'est notre petite chronique où on va tout simplement vous présenter les grands univers de jeux de rôle. Pour commencer, étant donné, je présente un peu mon expérience en tant que rôliste. J'ai commencé le jeu de rôle j'ai commencé le jeu de rôle il y a 15 ans environ. J'ai commencé avec Donjons et Dragons, 4e édition, puis je suis passé à la 5e édition. Aujourd'hui, je joue encore un peu à Donjons et Dragons, mais je joue à plein d'autres trucs, on pourra en parler, tout ça, si ça vous intéresse, évidemment. Mais surtout, aujourd'hui, je suis dans une association qui promouvoit les créations d'univers faits par notre communauté. Ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, je crée des univers, je vois de nouveaux univers, et surtout, on a cette petite partie qui nous permet en fait de vraiment pouvoir discuter avec d'autres créateurs. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais pour du coup dans cette chronique, on va juste vous présenter. Bon, aujourd'hui on vous présentera Donjons et Dragons. Et la question c'est vous, votre expérience avec Donjons et Dragons. Toi, je sais Fadi que tu fais du Grandeur Nature.
J'ai fait du Grandeur Nature. J'ai fait du JDR aussi.
Okay.
Donjons et Dragons, j'ai découvert tard. Mais j'ai fait du JDR avec des potes avant et j'adore. Mais du coup Donjons et Dragons, j'ai découvert très tard. J'ai joué un petit peu, okay, malheureusement. Mais je kiffe.
Ok.
Moi, alors, le JDR, c'est pas quelque chose qui m'intéressait jusqu'à ce que je me mette en couple avec JR. J'étais pas du tout convaincue. C'était pas quelque chose qui m'intéressait. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure de me renseigner, etc., je me suis dit pourquoi pas. J'ai testé quelques sessions. J'ai commencé du coup avec Donjons et Dragons, quelques sessions de JDR. Et franchement, ça m'a plu. Après, c'est pas quelque chose. C'est pas ma passion comme JR par exemple ou comme toi Fadi, mais de temps en temps j'aime bien faire quelques parties et oui, j'aime beaucoup, c'est surtout l'univers qui me plaît plus que le fait de faire du JDR, ouais. Tout ce qui est création d'elfes, etc.
Compréhensible. Compréhensible. Mais du coup, ouais, bon, pour revenir à Donjons et Dragons, bon, moi j'y ai joué beaucoup, je suis un rogue dans l'âme, mes plus grands personnages étaient des rogues et voilà, je pense que c'est la meilleure des classes, il faut le dire à un moment, mais c'est pas la question. Il faut savoir qu'aujourd'hui, cette année, Donjons et Dragons a 50 ans. Ça a été créé en 1974 et que pour les ça a été créé par Ernest Gary Gygax et David Anderson. Dans de base du coup, c'était un jeu qui ressemble pas du tout à ce qu'on a fait aujourd'hui. C'était vraiment on crée une équipe, on va pour récupérer un trésor et on se fait défoncer.
OK.
Puis après on crée une nouvelle équipe. On retrouve notre équipe qui s'est fait défoncer, probablement relevée par une liche parce que bon, c'est la merde et on s'est probablement aussi défoncé. Il y a certains de ces parties qui sont encore très connues aujourd'hui, notamment la tombe des horreurs qui est une plaie. Mais il faut savoir que du coup, si Donjons et Dragons est toujours aussi connu et agréable à regarder aujourd'hui, c'est parce que justement, on arrive à ça a évolué avec son temps. Aujourd'hui, Donjons et Dragons, c'est plus un univers qui permet de créer une aventure avec des gens et de vivre une aventure, ce qui est toujours très bien. Il y a toujours autant de classes, et il faut savoir que du coup, si j'en parle aussi aujourd'hui, si j'ai décidé d'en parler aujourd'hui, c'est que en septembre, il y a la sixième version entre guillemets qui est sortie, c'est-à-dire la Donjons et Dragons 2024 comme ils l'ont appelé. Ils n'ont pas vraiment d'imagination, mais c'est pas grave. pour les releases qui m'écoutent, pas d'inquiétude, je vais toujours jouer avec la cinquième édition. C'est juste qu'en fait, la version 2024 est censée apporter de nouvelles choses. Bon, ils disent ça, mais en fait, en réalité, maintenant, la création de personnages, elle est complètement changée. Les classes, elles sont changées. Il y a des nouveaux trucs, notamment des trucs qui sont très cool, comme les maîtrises d'armes qui permettent d'avoir vraiment de nouvelles possibilités de personnalisation. Mais ça reste quelque chose qui est quand même assez agréable. C'est toujours agréable à jouer. J'ai mon avis sur Donjons et Dragons. C'est un jeu de rôle que j'ai dans mon cœur parce que j'y ai beaucoup joué. Le problème aujourd'hui, c'est que je pense que surtout, je suis en profond désaccord avec certaines décisions de la maison mère. La maison mère, il faut savoir que c'est Hasbro, et Hasbro, est-ce que vous avez déjà entendu parler des Pinkerton?
Non.
Pas du tout.
Les Pinkerton, ce sont des mercenaires, on peut le dire clairement, qui, en gros, il a été interdit que le gouvernement fasse appel à eux parce qu'ils sont trop violents. Hasbro, c'est la compagnie qui a fait le plus appel à eux dernièrement. Notamment, Hasbro a fait appel à eux parce que il y a un YouTuber qui a reçu un paquet de boosters avec des cartes qui ne devaient pas être là de Magic. Ils s'ont envoyé des Pinkerton. Et c'est chaud. Et c'est très très chaud. Mais voilà, encore une fois, c'est un jeu de rôle que j'aime beaucoup. Je sais que personnellement, dans la communauté dans laquelle je suis, c'est pas un jeu de rôle qui est apprécié parce que beaucoup trop de règles, beaucoup trop carré. C'est un GDR qui est un peu old school, mais ça reste selon moi une très bonne porte d'entrée en fait pour ça. Faut savoir aussi que du coup, bah, Donjons et Dragons, c'est un peu à l'origine d'un des meilleurs jeux qui est sorti l'année dernière, c'est-à-dire Baldur's Gate. Hein. Je connais des gens ici qui sont fans de certains personnages. Moi-même, j'en suis fan et je comprends tout à fait. Mais voilà, c'est encore une fois, si vous voulez découvrir, si vous voulez rentrer dans le monde du jeu de rôle, je pense que vraiment, en fait, Donjons et Dragons est une bonne porte d'entrée, dans le sens où c'est déjà un univers d'heroic fantasy qui a été, tout le monde y joue, tous les rôlistes y jouent, et du coup, forcément, en fait, ça nous permet d'avoir une espèce de première vision de tout ça. Mais encore une fois, je suis en train de voir le temps et je me rends compte qu'il va falloir que je me limite un peu. Donc jouer à Donjons et Dragons, moi personnellement je suis pas d'accord avec tout ce qu'ils font, mais voilà, pour un release débutant, je pense que c'est la meilleure porte d'entrée. Ou alors vous pouvez rejoindre toujours différentes communautés qui eux vous proposeront des univers qui sont souvent faits maison et qui vous permettront de vous mettre en pied dedans. Par contre, si vous mettez en pied dans les univers maison, à mon avis vous ne retournerez jamais auprès de Donjons et Dragons. Deuxième pause musicale, juste avant la pause musicale, je rappelle que vous êtes sur Radio G et que vous écoutez Pop Flash 101.5 et c'est aussi une radio du coup en DAB+. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Habatai tara modoranai to itte mezashita no wa aoi aoi ano sora. この感情も今言葉に変わってく道。
Et on est de retour. On est là pour notre dernière chronique. Je regarde le temps. Ouais, on a le temps de la faire. Quiz, blind test et surprise. Bienvenue dans le bric-à-brac avec Mel et JR. Du coup, dernière chronique. La chronique, elle va être assez simple, le temps que je la retrouve. C'est tout simplement, je vous pose des questions, vous y répondez, vous avez faux, vous avez vrai. Et il faut savoir que les personnes qui écoutent, vous pouvez répondre. On sera là à la première pour regarder les trucs et on sera du coup sur notre chaîne Twitch et on pourra vous répondre pour vous dire si vous avez raison ou pas. Donc, première question. Partie cinéma.
On joue Mel et moi, c'est ça?
On joue, oui, vous êtes tous les deux.
On est ensemble ou on est contre?
Non, on est contre. On est contre. Celui qui gagne... gagne le titre de roi ou reine de la pop.
Ok. Donc, ah, là, ok, s'il y a un enjeu.
Voilà, il y a un enjeu.
J'ai les mêmes connaissances avec ou sans enjeu, de toute façon.
Okay. Je, oui, c'est ça, pareil.
J'ai pas des trucs qui tombent dessus. Ok.
Mais du coup, quel film d'animation Pixar raconte l'histoire d'un rat nommé Rémi qui rêve de devenir chef de cuisinier? Vas-y, Fadi.
Ratatouille,
oui. Ah. Quel jeu vidéo de survie post-apocalyptique a popularité? Les infectés sont appelés les clickers. Vas-y, Fadi.
Fallout.
Non. Vas-y, Val.
Minecraft?
Non, vas-y.
Borderlands?
Non plus.
Oh putain.
Comment ça? Bioshock?
Les infectés sont appelés les clickers.
Ah, j'ai pas. Merde, post-apo.
Vas-y. Vas-y.
Ah, mais ça me dit.
Trop tard. Il y a une série sur, il y a une série sur Amazon Plus et sur Amazon Prime.
J'ai pas.
Mais oui, c'est la série. Non. Laisse-moi réfléchir. Allez, j'ai le nom sur le bout de la langue.
Vas-y. Last of Us.
Oui.
Oh,
let's go. Ensuite, quel groupe de K-pop a explosé sur la scène mondiale des hits? Vas-y.
KDA?
Non.
Oh, mais je suis trop
con. Sur un hit comme Dynamite ou Butters? Oui.
BTS.
Oui.
Oh là là. BTS pour les fans, les vrais fans.
Dans la série Breaking Bad, quel est le surnom du personnage principal Walter White dans le monde de la drogue? Bon, aucun de vous deux ne sait.
T'as compté les points?
Je sais pas. Oui, pour l'instant, vas-y.
Le W?
Non.
C'est, j'ai essayé.
C'est Heisenberg.
Ah oui.
Say my name.
Ah oui.
Ah, mais je croyais que c'était son nom de famille, moi.
Ah non, non, pas du tout. Du coup, film de super-héros, quel réalisateur est derrière le film The Dark Knight et Inception? Vas-y, Fadi.
Christopher Nolan.
Ok, pour l'instant, tu te fais écraser, Mel, hein?
Oh non!
Dans l'animé Naruto, quel est le nom du démon renard à neuf queues? C'est... Vas-y.
C'est Kyubi.
Je lève pas la main.
Non, c'est pas ça. C'est quel est son nom? Vas-y.
Le renard à neuf queues.
Non, vas-y.
C'est Kurama.
Oui, c'est ça. Question comics. Quel est le super-héros? Quel super-héros a pour ennemi le Joker, le pingouin et double face? Vas-y, Mel, pour une fois.
Batman.
Let's go.
Vas-y, ouais. Bravo. Et du coup, on va faire encore deux questions. Dans quel jeu de type Battle Royale de combat, on est sur une île construite? Vas-y, Fadi.
Fortnite.
Oui. Et dernière question, quelle série raconte l'histoire des Lannister, Stark, Targaryen? Vas-y, Mel.
Game of Thrones.
Bah, oui.
Bon, on va pas se mentir.
Plus de gagnant, questions,
le gagnant, je pense que c'est Fadi. Fadi est le roi de la pop jusque dans deux semaines. S'il veut revenir, évidemment, il peut remettre son titre en jeu.
Je suis le roi de la pop, je reviens plus jamais, je pars avec un titre. T'es fou, quoi. Je reviens à la dernière. Et voilà, c'est tout.
J'ai le cœur brisé. Je perds ma couronne.
Non, mais quand même, bravo.
Bravo à tous les deux. Il y a certaines questions qui n'étaient pas évidentes, mais c'est comme... Étant donné que c'était la première, bon, petite parenthèse, du coup, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous n'avez pas été trop stressé? Est-ce que, du coup, le concept vous plaît?
Qui commence?
Vas-y, je t'en prie.
Alors, moi, stressé, non, parce que j'ai la chance que ce soit mon métier, donc je fais ça souvent. Par contre, je suis très content, comme j'ai dit au début, hein, de vous avoir suivi sur cette aventure, et j'ai adoré l'émission. En vrai, de vrai, c'est le type d'émission que j'adore écouter, et puis il y a plein d'infos qui viennent de mon univers à moi. Franchement, les cibles sont multi, je restais dessus, c'est trop bien. Et puis on apprend plein de trucs, mine de rien, il y a énormément de choses dans la pop culture, il y a trop de trucs.
Trop.
Donc heureusement qu'il y a ce programme qui permet de mettre un peu en lumière les éléments. Donc bravo en vrai, félicitations.
Merci beaucoup. Moi ça va, très stressé au début, mais là ça va, je suis pas trop stressée. C'était bien, j'adorais. Merci Fadi de nous laisser cette occasion de faire ça, et puis merci à Radio G aussi, bien sûr, Donc voilà. Et toi, JR?
Moi, j'étais ultra stressé. Bon, ça s'entendra pas, mais au début, j'ai bafouillé, j'ai recommencé 5 fois, j'ai oublié l'enregistrement. Et, mais du coup, non, très, très, très cool. Je suis très content et j'espère que, bah, du coup, tout se passera bien. Bah, tout va bien se passer. Je remercie Radio G de me donner cette opportunité. Et puis, bah, voilà. Sur ce, c'est comme ça que se termine, du coup, ce premier épisode de Pop Flash. On se retrouve dans 2 semaines pour plein de nouvelles news. Et, bah, en attendant, portez-vous bien.
Au revoir.
Ciao.
Salut.
Radio G 101.5 FM.